Alors, pendant que notre frère s'apprête à prendre place pour nous apporter la parole, je vais demander à Sabrina de se lever pour... tu peux venir en avant, si tu veux. Ben, sinon, elle n'a pas de micro. Bien.
Je vais lire dans le livre de la Genèse au chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue du ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence, selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre, vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons, et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent, en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le cinquième jour. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le sixième jour.
Alors, prions ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour chaque personne qui est ici dans cette salle devant toi ce matin. Soit petit ou grand, soit jeune ou pas jeune, Seigneur, tu connais tous les cœurs. Tu nous connais. Et Seigneur, nous sommes dans ta présence. Et nous te demandons simplement, Seigneur, que tu puisses nous parler à travers ta parole, par ton Esprit Saint, que tu agisses dans nos cœurs, chacun de nous, Seigneur. Tu sais ce dont nous avons besoin et tu sais, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Que tu bénisses chacun, Seigneur, aussi les enfants en bas. Nous te demandons toutes choses au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Alors, je veux vous parler encore une fois aujourd'hui du livre de Genèse. Le livre de Genèse, c'est la porte de toute la Bible. Il est la fondation de toute l'Écriture. Il y avait quelques années maintenant, et nous avons noté, nous avons remarqué dans notre maison chez nous, il y avait une petite fissure dans la chambre en haut. Alors, la fissure a commencé à continuer, à bouger. Et enfin, on a demandé à quelqu'un qui est expert des bâtiments. Et il n'a pas regardé la fissure. Qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé la fondation. Et dans ma maison, la salle de bain, il y avait une chute de l'eau et quoi que ce soit qui passe au-dessus, juste près de la fondation. Et la tuyau était cassée. Alors, chaque fois que je me baignais ou allais aux toilettes, toute l'eau chasse et la fondation, ils ont commencé à être s'écrouler. Merci Seigneur, ils ont remarqué ça. Ils avaient la possibilité de reparler les tuyaux et faire réparer les fissures et quoi que ce soit sans aucun problème. Mais, s'il y avait un problème avec les fondations d'une maison, d'un bâtiment, il y aurait un problème avec tout le bâtiment. C'est vrai? Avec moi, avec ma maison. Et j'espère que cela ne va jamais arriver avec la vôtre. Mais, mes amis, Genèse, c'est la fondation de toute la Bible. Et si une personne a un problème de croire Genèse, vraiment, il y a un problème avec le reste. Si une église a un problème d'accepter Genèse, cette église a un problème avec la fondation pas la fondation du bâtiment, mais la fondation de nos croyances. Et alors, voilà pourquoi nous allons étudier Genèse et la porte de Genèse, Genèse chapitre 1. Et aussi, il faut dire que, peut-être il y a quelques-uns qui disent, mais Steve, passons vite par Genèse, nous voulons entendre quelque chose de Jésus. Alors, nous allons entendre quelque chose de Jésus, d'abord. Mais il y a pas mal de gens qui ne veulent pas écouter Jean 3,16, les évangiles. Pourquoi? Parce que pour eux, Genèse, c'est un pierre de charpent. Alors, ils ne peuvent pas entrer, écouter les merveilles de l'évangile. Pourquoi? Ils sont gênés par Genèse. Et pour eux, il faut traiter le livre, le premier livre dans la Bible qui est Genèse. Il y a des hommes et des femmes qui n'acceptent pas le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas passer par l'Ancien Testament. Et la Bible, c'est complet. C'est un livre. 66 livres dans un seul grand livre qui est appelé la Bible. Il faut dire aussi que toutes les églises, jusqu'à le 19e siècle, les églises orthodoxes, les églises catholiques, les églises de la plupart protestantes, ils ont accepté Genèse comme elle était écrite. C'est seulement dans les dernières années que nous n'avons pas accepté Genèse. Et j'ai noté chez nous en Angleterre que les églises qui abandonnent Genèse commencent à se fermer. Il y avait un gymnasium tout près de l'autre route, pas loin de chez nous. Et sur le gymnasium, il avait une grande signe, « Donne-moi la force ». Ah oui, c'est un bon signe pour un gymnasium, n'est-ce pas? J'imagine tous les hommes comme ça et toutes les femmes sur les vélos ou quoi que ce soit. « Donne-moi ta force ». Mais pourquoi ça pour un gymnasium? Parce que autrefois, c'était une église. Alors, c'était un texte de la Bible. Mais maintenant, l'église est fermée, partie, et s'est remplacée par un gymnasium. C'est triste, hein, que les églises se ferment et les gymnasiums s'ouvrent. Je n'ai rien contre les gymnasiums, mais je suis pour l'église d'abord. Et chez nous, il y a les gymnasiums les églises qui maintenant vendent les tapis, où les supermarchés, où les gens habitent, il y a un petit appartement au lieu d'une église. Les églises ferment. Et j'ai noté que souvent, si une église n'accepte pas Genèse, une église libérale ou moderniste, plutôt protestante que les églises traditionnelles, ils commencent à fermer. Et alors, le thème de ce week-end, nous avons considéré la science et la Bible. Mais pour lire la Bible, il ne faut pas suivre un cours scientifique dans l'université pour comprendre la Bible, non. Tu peux ouvrir la Bible et le Seigneur y peut te parler directement par sa parole. C'est ça qui a été redécouvert à la Réforme, n'est-ce pas? Que Dieu il puisse nous parler par sa parole comme des individus devant lui. Et voilà, nous sommes tous comme ça ce matin. Il ne faut pas avoir la science pour interpréter ce qui est écrit en noir et blanc ici sur la page. Et le thème de ce week-end, c'est de considérer la foi et la science. J'ai déjà montré que la foi et la vraie science, la science factuelle, sont des amis. Il y a pas mal de scientifiques, même aujourd'hui, qui croient la Bible comme elle est écrite. Et la dernière chose comme introduction, autour de nous, dans notre société, nos sociétés européennes, c'est-à-dire en Angleterre, en la France, dans la Belgique, dans l'Allemagne, nous avons une base chrétienne. Soit catholique, soit protestant, nous avons une base chrétienne. Mais maintenant, il y a tant de problèmes sociaux. Pourquoi? Parce que, pour la plupart des églises, pour beaucoup des églises, leur fondation n'est pas solide sur les Écritures. on a un problème de le mariage aujourd'hui. Mais où c'est en Genèse que Dieu il présente un mariage. Pas homme et homme ou femme et femme, mais homme et femme. Il y avait un problème de mouvement transgendre aujourd'hui. Sur la BBC, il y a 2-3 semaines, il y avait un documentaire et c'est rapporté que dans les écoles, maintenant en Angleterre, cette année, s'est introduit l'idée que les petits, ils peuvent choisir s'ils veulent être femelle ou mâle. Il n'y a pas homme et femme. Maintenant, il y a une centaine, croyez-moi, une centaine de genres. Un peu femelle, un peu mâle, quoi que ce soit. Aux enfants qui ont 5 ans. Imaginez ça. Alors, c'est stupide. Et je suis sûr que la plupart des gens ne vont pas accepter ça. Mais quand même, dans le Parlement et dans les écoles, ça c'est l'enseignement, dans les écoles de l'État, c'est-à-dire ne pas dire les écoles chrétiennes, mais ça c'est l'enseignement aujourd'hui, tu peux choisir ton genre. Mais la Bible aussi, c'est clair, ça donne la réponse. Et dans chacun de vos cellules, si vous êtes homme, vous êtes X et Y, chromosome long, génétiquement. Si vous êtes femme, X et X. Et voilà, tu ne peux pas changer ça. C'est dans chaque cellule de votre corps. Et selon, il est écrit, selon nous avons lu ce matin, Dieu, il a créé l'homme, homme et femme, en son image, homme et femme, égal en identité, mais différent physiquement, mentalement et dans les rôles qu'ils jouent dans la société, dans la famille. Ça, c'est l'enseignement aussi qui vient de Genèse. Ça correspond exactement avec les problèmes que nous avons dans nos sociétés européennes. Je peux continuer aussi. Hein. Il y a d'autres problèmes sociaux et la réponse pour les difficultés occidentales sont trouvées pour la plupart en Genèse. La réponse est en Genèse. Alors, la première point d'application. Écoute. Écoute ce livre parce que c'est vraiment important dans le plan de Dieu. Alors, le second point que je voulais faire, c'est que Dieu se révèle d'abord en Genèse. Voilà ma carte de business. Si je fais la reconnaissance avec quelqu'un, un autre académique, un autre visiteur à l'université, je le donne ma carte, il me donne la tienne. C'est normal, hein, n'est-ce pas? Et je me produis dans ma carte, voilà mon nom, et voilà mon boulot, c'est-à-dire mon métier à l'Université de Liverpool. Je donne ma carte. Ça définit qui je suis, pour me présenter d'abord. Alors, Dieu, il nous présente sa carte. Il y a plusieurs choses. Dieu, il est le bon berger. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le roi des rois. Il est le sauveur des pécheurs, comme moi, comme toi. Il a beaucoup de choses, mais d'abord, il se présente comme toi, créateur, créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux à la terre. C'est sa carte, c'est sa carte. Et c'est important, la façon qu'on se présente devant les autres pour la première fois. Et la première fois que Dieu nous présente devant nous, c'est comme notre Créateur. Chacun de nous, nous soufflons ce matin. J'espère que ça va continuer. Nous allons manger plus tard. J'espère que vous pouvez rester manger chez nous. Je regarde avec plaisir ce que j'ai vu hier, dedans. Mais alors, nous soufflons grâce à qui? Grâce à lui. Nous avons mangé ce matin et nous allons manger cet après-midi grâce à qui? À lui. Alors c'est Dieu qui nous donne la vie. Nos êtres sont faits en son image. C'est lui qui a fait tout. Il est le Créateur. Avant tout, il est le Créateur. Alors, gardez la Bible ouverte, nous allons faire un petit voyage par Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu. Le premier point, Dieu est éternel. Lui, il n'avait pas un commencement. Vous et moi, chaque chose, le bâtiment, la voiture, même la terre, et les cieux, et la lune, le soleil, ils avaient tous un commencement, mais pas Dieu. Il était toujours là. Il est éternel. Il n'a jamais été né. Il était pour toujours. Il y a des athées qui posent la question, mais qui a créé Dieu? Mais la question se contredit. Parce que autant que Dieu, il n'a pas un créateur. Il est le créateur. Il était toujours là. Il n'est pas une création. Un Dieu qui a une création n'est pas un Dieu. Nous pouvons aller dans un temple hindou aujourd'hui. Et tu peux voir des centaines de dieux dans le mur, autour de vous. Les statues. Mais, les amis, ils ne sont pas des dieux parce qu'ils sont faits par les hommes et des femmes. Nous parlons du Dieu qui nous a fait. Pas les dieux que nous avons faits. Ça, c'est l'idolâtrie, ça. Et c'est défendu de faire une image, une statue, quoi que ce soit, pour m'aider à adorer Dieu ou même pour agir comme Dieu. Ça défend tout ça par les 10 commandements. Dieu, il est le Créateur. Si je crée quelque chose, ce n'est pas évidemment, forcément, et évidemment Dieu. Alors Dieu, il est éternel. Il existait toujours et à la fin de ce monde, il sera là. Il est pour toujours. Il est éternel. Il veut partager son éternité avec nous. Et voilà qu'est-ce qui arrive lorsque je reçois Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur. Je partage l'éternité de Dieu. Il n'est pas créé, il est éternel. Il est différent que l'univers. Il était là avant l'univers. Il a créé l'univers. Il n'était pas dans son univers. Il n'était pas le univers. Ça, c'est le pantheisme. Non, il était dehors. Il y a un autre état de l'être qui est avec Dieu, qui ne dépend pas sur l'univers physique autour de nous. Il est transcendant. Il transcende l'univers qu'il a créé. Et alors, il a tout créé. Dieu créa les cieux, l'univers, et la terre. Il a tout créé. Il est tout puissant. Voilà le premier verset. Et alors, le reste du chapitre, il remplit la terre qu'il a créée, qui a commencé, qui était autrefois vide et morte. C'est comme un bout de l'argile. Et Dieu, il est maintenant révélé comme un artisan. Alors, qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il allume. Et alors, il remplit. Il fait des choses merveilleuses. Et à la fin, tout est bon. Et c'est un temple pour les hommes et les femmes qu'il a juste créé. Et c'était parfait et très bon. Voilà le système, voilà la progression de la pensée en Genèse chapitre 1. Il est éternel, il est tout puissant. Voilà ce que nous avons appris par les premiers versets de la Bible. Il y a une autre chose. En hébreu, J'ai un scholar, il y a un scholar hébreu ici, Boris, pour lui demander, pour vérifier ce que je dis, c'est bon. Dieu est pluriel. Et créa, en anglais, en français, en hébreu, c'est singulier. Mais ça ne marche pas ensemble, ça. Il n'y a pas, c'est Dieu, pluriel, créa, singulier. Et un peu plus tard, verset 26, nous lisons, faisant l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, Dieu, il est singulier, il est pluriel. Il est un être en trois personnes. Dans ce chapitre, même dans le premier verset, certainement dans le premier chapitre, c'est une révélation de la Trinité de Dieu, sa nature trinitaire. En effet, le troisième personne de la Trinité est révélé, verset 2. Nous lisons l'Esprit de Dieu. Et en Genèse chapitre 1, il agit, Dieu, il agit par son Esprit qui bouge sur la face des eaux. Et en verset 3, Dieu dit, et 10 fois dans ce chapitre, nous lisons, Dieu dit, et cela fut ainsi. Dieu dit, et cela fut ainsi. Dieu dit, et cela fut ainsi. Il accomplit son travail par son Esprit et par sa parole. Dieu le Père, invisible, mais il agit envers nous, envers la création. Il crée avec les deux mains de son Esprit et sa parole. Voilà ce qui est révélé devant nous ce matin. Il est éternel. Il est tout-puissant. Il est trinitaire. Un être, un seul être, un Dieu, mais trois personnes, individus qui sont Dieu. Un seul volonté. Un être, mais en trois personnes. Le Père, il est Dieu. Le Fils, il est Dieu, éternellement. Et l'Esprit, il est Dieu, éternellement. Égal en gloire, égal dans leur divinité, distinct dans leur personne. Voilà notre Dieu, les amis. Tu ne peux pas comprendre? Moi non plus. Mais il faut adorer. Voilà la réponse à la révélation de l'être magnifique de notre Dieu. Il n'y a aucun comme lui. Nous avons déjà chanté. Il est incomparable dans sa personne, dans son être, dans sa gloire et dans ses œuvres. Voilà le Dieu que nous allons adorer ce matin. Voilà le Dieu qui est maintenant dans cette salle, et pas dans cette salle seulement, mais dans la salle chez moi, à l'église de Liverpool, et avec chaque groupe de croyants pendant tout le monde. Voilà notre Dieu. Alors, tout ce que Dieu fait, c'est merveilleux. Et lorsque tu regardes un coucher du soleil, lorsque tu es près de la mer, tu regardes les vagues, tu marches sur les montagnes où tu regardes les étoiles. C'est magnifique et merveilleux, n'est-ce pas? Vraiment. Tout ce que Dieu fait, c'est merveilleux. C'est merveilleux et magnifique. Il est sage. Nous avons parlé hier soir d'un horloge. Et nous avons fait le point que chaque horloge, pour chaque horloge, il y a forcément une horloger. Mais le grand horloge, le soleil, la lune, le système solaire, voilà, c'est un grand horloge. Le mien, c'est électronique. De temps en temps, la batterie s'épuise et je dois brancher. Alors, je suppose que Jacques, il n'a pas les choses électroniques. Jacques, il a les anciens. Alors, il a une petite... C'est vrai, Jacques? Non. OK. Alors, Mais il épuise mécaniquement. Il faut faire encore de refaire le truc. Mais voilà l'horloge de Dieu. Magnifique. Vous savez l'histoire du grand savant Newton. Il faut dire que Newton croit la Bible. Il faut dire ça. Il croit aussi que les six jours pour Newton de créer le monde n'est pas un problème pour lui, autant que scientifique, le plus grand scientifique de Grande-Bretagne. Newton, il a fait une modèle du système solaire dans la librairie de l'université Trinity College, Cambridge. Et il y avait un homme athée qui a remarqué, « Ah, c'est fantastique ce modèle. Qui a fait ça ?» Et Newton a dit, « Non, personne ne l'a fait. Tu plaisantes. Toi, tu as quelqu'un pour avoir fait ce modèle du système solaire. Non, non, il n'y a personne qui l'a fait. Non, non, je ne te crois pas. » Et Newton lui a dit, mais tu ne crois pas qu'il y avait quelqu'un, il doit y avoir quelqu'un pour faire le modèle, mais le système réel, tu ne crois pas à Dieu? Tu crois que ça, c'est par hasard? Alors, monsieur n'avait rien à dire. Il n'y a rien à dire, n'est-ce pas, à ça? Si on horloge, implique une horloger, voilà une grande horloge. La lune, le soleil et le système planétaire par lequel nous mesurons les jours, la nuit, les mois, les ans et tout le temps. Ok. Dieu, il est sage de faire tout cela. Il est merveilleux. Et aussi, il est bon. Vous voyez que il a fait les arbres le troisième jour et pas le sixième. Pourquoi? Parce que les animaux, les oiseaux, le cinquième, les animaux, le sixième, avec homme, ils ont besoin de quelque chose à manger. Alors, la table est déjà faite. Dieu, il a fait la table le troisième jour, en avance, que l'homme. Alors, merci aux dames de l'église qui ont déjà fait la table pour nous. Je parle à Marianne, où est-elle? Alors, félicitations. La table est déjà faite pour vous. Vous n'avez rien à faire sauf pour manger. Et Adam, en sortant de la poussière, avoir reçu l'Esprit de Dieu dans ses poumons, il peut prendre un fruit. Et c'était bien. Dieu, il est bon. Il donne des choses, il est sage, il maîtrise les choses, il est souverain, il crée les choses, il est tout puissant, il gère des choses, il est un Dieu trinitaire éternel. Voilà notre Dieu, les amis. Dieu se révèle d'abord en Genèse, mais il y a aussi un message en Genèse. Et voilà. Voilà pourquoi Genèse est si important. En Genèse, toute la création est très très bonne. Voilà le dernier verset. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Chaque jour, il dit c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le dernier jour, très bon. C'est fini. Il se reposait le septième jour. Pourquoi il est reposé? Parce qu'il avait la fatigue? Non. Mais pour nous donner un exemple, pour que nous, comme être fait à son image, doit avoir un jour de repos chaque semaine. Et voilà, vous êtes ici. Félicitations d'avoir gardé le jour du sabbat pour louer le Seigneur. Vous êtes dans le bon endroit, selon cet écrit. Dieu, il n'a pas reposé parce qu'il est fatigué. Il n'apprenait pas encore. Il est un esprit. Il n'avait pas la fatigue. Il l'a fait pour nous, pour nous enseigner que six jours de travail, faire tout ce que je peux, et alors, le septième jour, je vais à l'église pour l'adorer, mon Dieu, pour être avec mes copains, mes frères et sœurs, pour écouter la parole de Dieu, pour encourager les enfants et pour manger un agapé. Voilà. Okay. Et Dieu, il veut. Dieu n'est pas un Dieu pour gâcher nos plaisirs. Alors, il y a tant d'hommes et de femmes, ils pensent que, ah, si je me suis devenu chrétien, c'est la fin de ma joie. Non, c'est le contraire, les amis. C'est le contraire, absolument. tu reçois un pardon pour les péchés. Ton conscience sera purifiée. Ta culpabilité, les choses que vous regrettez, sont dans le passé. Vous avez un but pour le futur. Vous avez une destination éternelle. Vous avez un ami, pas simplement à côté de toi, mais en toi. Vous avez une force qui vous aide à résister les choses mauvaises, la tentation qui sont autour de nous. Voilà les choses qui est là pour vous, autant que chrétiens, qui vous sont offerts dans cet évangile. Mais l'évangile lui-même est basé sur Genèse. Laisse-moi expliquer. Chapitre 1, c'est très bon. Chapitre 2, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que le mariage est venu. La dernière chose, le chef d'œuvre de Dieu, c'est quoi? Les femmes. Parce que l'homme, il était créé de la poussière, mais les femmes sont créées de l'homme. La dernière chose que Dieu a fait, et la femme est donnée à Adam. Il y a peut-être, si tu peux lire chapitre 2, c'est la première poésie. Peut-être Adam, il a chanté lorsqu'il a vu Ève. Alors, je parle aux hommes de l'église maintenant. Est-ce que vous allez chanter à vos épouses ce soir? J'espère que oui, parce que vous êtes contents de ce que Dieu vous a donné. Adam, il y a un peu ça en chapitre 2. De Genèse, il est marqué. L'homme dit, voici cette fois celle, verset 23, voici cette fois celle qui est mes os et chair de ma chair. Voilà, il était content, Adam, de voir sa femme. Et l'homme appellera femme, parce qu'elle était prise de l'homme. Et voilà pourquoi, comme j'ai dit, dans le système génétique de chromosomes, XX pour femme, XY pour homme, ça correspond à ce que nous avons lu ici, n'est-ce pas? C'est impossible qu'un homme pour sortir physiquement d'une femme, parce qu'une femme ne possède pas le chromosome Y. Mais c'est bien possible qu'une femme peut sortir de l'homme, parce que l'homme, il est X et Y. Okay? Tu sais que comment la science confirme? Pardon. Le Genèse, oui, la science confirme le Genèse, ok? C'est pas le contraire. Alors, la science de nos jours confirme ce qui était écrit ici. Ève, créée de la côté d'Adam. Et alors, c'était maintenant encore mieux. C'est très bon. Mais chapitre 3, c'est un changement. C'est un chapitre tellement important dans le plan de Dieu. C'est-à-dire que dans le péché, c'est-à-dire le rébellion contre Dieu, est entré en chapitre 3, il y avait le diable. On ne savait pas toutes les réponses concernant l'origine du péché en lui. Ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas révélé. Mais ce qui est révélé, c'est que la chute de l'homme, c'est-à-dire lorsque Satan, il a tenté d'abord Ève et alors Adam de rebeller contre Dieu. C'est toute une étude que je laisse Jacques et les autres pour un autre jour. Mais je veux simplement faire le point que tout est bon jusqu'au moment que l'homme, il a péché. Et après ça, le péché est entré et la mort après le péché. Tout est bon, pas de péché, pas de maladie, pas de problème, pas de vol, pas de meurtre, pas de choses mauvaises. Non, pas de tristesse, pas de solitude. Tout était bon. Chapitre 2. Chapitre 3. Le péché est entré et alors le mort et la mort et tout était mauvais. Même la terre était maudite. Chapitre 4, le premier meurtre, frère contre frère. Et voilà l'histoire humaine. la guerre, le meurtre, le viol, les problèmes, l'exploitation. Voilà l'histoire de nos membres, ok? Et ça a continué jusqu'à Jésus-Christ. Lui, Adam, était dans un jardin. Il était tenté, il a chuté. Jésus, par contre, dans le Nouveau Testament, il était dans le désert. Il n'a jamais mangé pour 40 jours. Il était tenté, il n'a pas chuté. Le premier homme qui était parfait, c'était Jésus. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vécu une vie parfaite. Il a laissé lui-même être cloué à une croix. Et sur la croix, il a payé la dette pour le péché de l'homme. Il n'avait aucune dette lui-même. Il n'avait aucun péché à payer. Mais lui-même, notre Dieu, en chair, s'est mis sur une croix pour payer la dette pour nous, pour chacun de nous, payer pour nos péchés, recevoir la punition de Dieu le Père pour le péché de l'homme. Et 3 jours après, il est ressuscité. Il a vaincu le péché par sa vie et par sa mort. Il a vaincu la mort par sa résurrection. Alors, ce qui est entré en Genèse, le péché et la mort, est vaincu par l'entrance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Dieu lui-même en chair, en vaincrant là le péché, payer la dette pour nos péchés et ressusciter des morts. L'évangile, c'est basé sur une fondation qui se trouve ici en Genèse. Alors, si tu écrases la fondation en Genèse, tu détruis la raison pourquoi Jésus est venu. Tu vois? C'est si important que ça. Et lorsque nous expliquons aux gens l'évangile, il faut expliquer le péché, la mort, le jugement, la colère de Dieu contre l'homme. Et alors, comment Dieu, il a résolu le problème en lui-même, en devenant chair, en payant la dette, en être un vainqueur contre la mort. L'évangile a aussi ses fondations en Genèse. C'est si important que ça. Et je suis convaincu, si une église va perdre Genèse, il dit, c'est la mythologie, ça. Encore une autre chose, un autre truc, c'est la science maintenant qui donne la vérité. Non, non, non. Si on perd la Genèse, tu vas perdre éventuellement l'évangile. Et si l'Église perd l'évangile, la société va être perdue complètement. Et voilà ce que nous voyons aujourd'hui en Europe, n'est-ce pas? Nous avions une base chrétienne pour les siècles, maintenant ça commence à être réduit ou même détruit dans certains pays. Et alors, nous avons perdu l'évangile. Alors, si tu es en accord, si vous êtes en accord avec moi, que ça c'est le processus qui a eu lieu pendant les siècles, pendant les dernières 150 années, pour renverser, ça c'est impératif que nous voulons. Il faut que nous renversons le processus par la croyance de la Bible comme la parole de Dieu des Genèses jusqu'à l'Apocalypse et prêcher l'évangile basé sur la vérité de la parole de Dieu. Alors, le message de Genèse, c'est très important. En terminant, et pour nous encourager, il y a aussi une illustration de chaque conversion humaine dans ce chapitre. Chapitre 1, encore une fois. Premier jour, la terre informe et vide. Voilà ma vie avant que je me suis converti. Informe et vide. Mort devant Dieu. C'était moi, avant de devenir chrétien, informe et vide. J'avais une vie informe et vide. Mais j'ai senti quelque chose quand j'ai rencontré un chrétien pour la première fois. C'était l'Esprit de Dieu qui commence à bouger, à passer sur les eaux de ma vie. La terre était informe et vide, j'étais informe et vide. Il y avait les ténèbres dans la surface de l'abîme, il y avait les ténèbres dans la surface de mon âme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessous des eaux. Et merci Seigneur que tu as envoyé ton esprit pour bouger sur la surface de mon âme il y a des années maintenant. Alors il y a la lumière. D'où vient la lumière? Verset 3. La lumière vient de la parole de Dieu. Que la lumière soit. Pour la première fois dans ce chapitre, Dieu parle et la lumière fout. Et les amis, Dieu a parlé. Et lorsque nous ouvrons la Bible, nous recevons la lumière céleste pour nos vies. Et pour ma conversion, j'ai entendu aussi la parole de Dieu. On m'a expliqué la parole de Dieu et la lumière est entrée dans ma vie. Jour 1, la lumière arrive par sa parole. Jour 2, Dieu, deuxième pas, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Notre frère Ernest a prié, il a mentionné la repentance. C'est absolument nécessaire. J'étais dans les ténèbres. L'esprit m'a bougé. J'ai entendu la lumière. Mais alors, c'est la repentance qui doit suivre l'évangile. Alors, la séparation des choses mauvaises. Cela est arrivé dans ma conversion. Cela doit arriver dans chaque conversion. Nous ne pouvons pas continuer dans les choses mauvaises si nous sommes chrétiens. Il doit y avoir une séparation. Voilà ce que Dieu a fait jour numéro 2. Jour numéro 3, les fruits. Et lorsque quelqu'un est converti, les fruits de l'esprit commencent à pousser dans leur vie. Égoïsme. Voilà ce qui caractérise ma vie. Égoïste, complètement. Mais avant, j'étais égoïste. Après me devenir chrétien, j'avais un cœur pour les autres que Dieu m'a donné. C'est le même pour vous, j'en suis sûr. Les fruits de l'esprit. L'amour de Dieu d'abord, joie, je suis content d'être parmi les chrétiens, la paix, j'étais comme jeune chrétien en paix avec Dieu, en paix avec moi-même. Les fruits commencent dès jour 3. La lumière, la séparation des ténèbres, le fruit, alors jour 4, les soleils, la lune, les étoiles, c'est marqué, psaume 19, il parle dans un langage que tout le monde peut comprendre, qu'il y a un Dieu, il est merveilleux et glorieux. Témoignage. Si je suis converti, si l'Esprit a agi dans ma vie, si j'ai reçu la parole de Dieu comme la parole de Dieu, et il a éclairé ma vie, si il y a des fruits de l'esprit. Maintenant, le prochain pas pour moi comme chrétien, témoigner et dire aux autres les bonnes choses que j'ai reçues. Témoignage, jour 4. Jour 5, les poissons et les oiseaux. Les êtres dans la mer qui savent nager, la natation, et les êtres, les créatures pour le ciel qui savent voler. Victoire! Victoire sur la terre que Dieu nous a placée. Et pour chaque chrétien qui vit pour le Seigneur, je ne dis pas que nous soyons parfaits, non. Au ciel, nous serons parfaits. Ici, pas. Mais quand même, il y a une victoire contre le péché. Si vous êtes chrétien, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous expérimentez la victoire contre les péchés de ta vie ancienne. Et la dernière chose, jour 6, Dieu, il a fait homme à son image. Et voilà le but de ma conversion. Dieu, il veut recréer son Fils en moi et en toi. Il veut te former, il veut me former en image de Jésus-Christ. Voilà son but. Qu'est-ce qui va arriver lorsque Jésus retourne? Alors, il va retourner. Il a marqué que nous, les chrétiens sur la terre, sera transformé à sa ressemblance. Il y a une description de Jésus maintenant au ciel. C'est donné en Apocalypse chapitre 1. C'est glorieux, rayonnant, magnifique. Voilà votre destin en tant que chrétien, d'être comme Christ éventuellement. Lorsqu'il revient, tu seras changé, ton corps, ton être, à sa ressemblance. Et ça va arriver, tous les croyants de tous les siècles, dans un seul instant. Nous avons parlé hier avec Christophe et Myriam d'une église en Afrique où il y avait 50 000 chrétiens. C'est en Nigérie. C'est l'église le plus grand au monde. C'est comme un stade de foot, hein? Rempli des hommes et des femmes qui aiment le Seigneur. C'est ça en Afrique maintenant. Mais ça, c'est une église. Il y a des autres églises en Corée, s'il y a presque le même taille. Aux États-Unis, au Brésil, l'église est très très forte aussi. Et imaginez-vous, chaque chrétien, ici, sur terre, à ce moment, des milliers, imaginez-vous, chaque chrétien parmi les siècles, et au deuxième événement du Seigneur Jésus-Christ, paf, tout changé à sa ressemblance. Même les anges, ils attendent ce jour avec hâte et plaisir. Ils veulent voir ça, la révélation des fils de Dieu au dernier moment. Voilà votre destin. Vous êtes digne de ça? Non. Moi, je suis non digne non plus. Mais il est digne et il nous aime. Il a donné sa vie pour que ça soit une réalité dans chacun de nos vies. Image, c'est le destin, image de Dieu. Nous sommes créés physiquement à l'image de Dieu. Nous sommes capables, nous sommes spirituels et nous avons la capacité de connaître, d'aimer Dieu. Nous avons ces possibilités créatives. Voilà, nous sommes créés dans l'image de Dieu. Nous sommes différents que les animaux. Mais notre destin final, c'est d'être fils de Dieu. Pour éternité, il partage sa gloire, son être pour nous, pour éternité. Satan a essayé de tenter Adam. Si tu prends le fruit, tu seras comme Dieu. Il a pris le fruit, tu ne mourras jamais. Il a pris le fruit, il a suivi Satan. Il a perdu ce qu'il avait. Le mort est venu, alors il n'est pas devenu comme Dieu, il est devenu un être en état de mourir. Mais Dieu, par sa grâce, il va nous donner ce que Satan nous a promis d'abord. Par sa grâce, parce que nous ne méritons pas, nous avons gâché, mais Dieu va nous faire les fils de Dieu. Comme Jésus, pour toujours, par sa grâce. Voilà l'évangile. Voilà notre Dieu. Voilà votre destin. 3A, le dernier point. Si nous passons chapitre 2, on voit l'image, on voit repos. Repos, c'est quoi? Ça représente quoi dans cette histoire? Le ciel. C'est le repos pour l'éternité. Et chaque dimanche que vous êtes là, vous goûtez un peu de l'éternité avec le frère et sœur de l'Église. 3 conclusions en terminant. Dieu est grand. Il a créé l'univers. Il vous a créé. Il faut que nous l'adorons. C'est notre devoir. Il est grand. Dieu est bon. Il a fait toutes choses bonnes parce que lui-même, il était bon. Il faut le remercier pour tout ce que nous avons reçu. Et Dieu, il est un Dieu de grâce et d'amour. Malgré nos fautes, malgré nos péchés, malgré les choses mauvaises dans nos vies, il est venu. Dieu a pris chair, Jésus-Christ, Dieu et homme, dans le même être, pour mourir, ressusciter, afin qu'il partage sa vie avec nous pour toujours. Il faut l'aimer, obéir et le servir avec tout ce que nous avons. Prions ensemble. Merci Seigneur pour le message qui est le message magnifique de ta parole. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ qui manifeste ta présence, ta caractère par sa parole parmi nous. Merci pour sa mort sur la croix pour nos péchés. Merci pour sa résurrection le premier jour de la semaine. Merci que nous sommes dans sa présence. Merci pour chaque personne ici, chrétien, qui acceptait le Seigneur comme leur sauveur, le Seigneur, et qui a pour destin d'être comme lui pour toujours. Seigneur, que tu nous réconfortes avec cette espérance, cette réalité qui va venir lorsque tu reviens. Seigneur, peut-être il y a quelques-uns ici qui n'ont jamais ouvert leur cœur à toi. Ô Seigneur, nous prions pour chaque personne qui sont ça, Seigneur, que nous avons écouté ta parole, nous avons lu ta parole, Seigneur, que tu puisses, la lumière entre dans leur cœur et qu'ils soient sauvés, qu'ils vivent pour toi, qu'ils donnent leur vie à toi, maintenant et pour toujours. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.